Chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices des programmes du studio Kalangou, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la Presse. Le Forum de la Presse, pour rappel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la Presse de cette semaine, d'abord l'installation des autorités municipales sur l'ensemble du territoire national qui est arrivée à son terme mardi 25 mai dernier, délai de rigueur. Ainsi, sur les 266 communes que compte le Niger, seuls les conseillers de la commune urbaine de Gouré, région des Andeurs, n'ont pas été installés faute de convocation de la session par le préfet du département de Gouré. Sur le plan sécuritaire, nous reviendrons sur le retour des déplacés de la commune d'Enzourou vers leur village d'origine respectif. Ils ont été acheminés par les autorités vendredi 21 mai 2020 passé dans des camions militaires. Dans la sous-région, nous parlerons des violences qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire contre des ressortissants nigériens sur la base d'une vidéo supposée être tournée au Niger et dans laquelle des hommes maltraités sont présentés par une internaute ivoirienne comme des ressortissants ivoiriens. Et au Mali voisin, la transition connaît une nouvelle orientation depuis que le vice-président de la transition, Assimi Goïta, a décidé d'écarter le président et le premier ministre malien de la transition. Il les a accusés de violer la charte de la transition. Restez avec nous dans un instant le développement de tous ces points avec nos confrères invités de ce soir, Elhaj Mahamadou Souleyman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Elhaj Souleyman.
Bonsoir Alassou.
Arimi Abba Kiari, journaliste à la radio alternative. Arimi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Sidiku Ousmane, journaliste indépendant avec nous. Sidiku, bonsoir.
Alassane, bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum de la presse. Bienvenue à toutes et à tous dans le Forum de la Presse de ce vendredi 28 mai 2021. Premier sujet du débat du Forum de la Presse, c'est l'installation des autorités municipales sur l'ensemble du territoire national, arrivée à son terme mardi 25 mai dernier, délai de rigueur. Ainsi, je le disais, sur les 266 communes que compte le Niger, seuls les conseillers de la commune urbaine de Gouré, région de Zander, n'ont pas été installés faute de convocation de la session par le préfet du département de Gouré. Ce dernier a, dans une lettre, expliquer son refus par la persistance, selon lui, du recours au serment coranique d'une part et le désengagement de certains partis politiques du processus d'installation de l'organe délibérant de la commune urbaine de Gouré. Certains conseillers ont saisi le juge des référés au tribunal des Zender, mais ce dernier s'est déclaré incompétent. Alors, je commence tout de suite avec vous, Elhaj Souleyman Mahamadou. Quelle analyse faites-vous de cette situation au niveau de la commune de Gouré et comment situez-vous les responsabilités, si on peut dire, de l'échec de l'installation de ces conseillers?
Je pense que franchement c'est gênant puisqu'au niveau national, au niveau de toutes les communes, les conseils sont mis en place, donc ça peut paraître un peu vraiment injuste ce qui se passe à Gouré. Mais qu'est-ce qui se passe selon, en tout cas, nos informations? Il y a une situation inédite. Il paraît qu'en amont, les conseillers ont juré sur le Coran de ne pas voter le candidat d'un parti. Alors maintenant, le préfet estime que c'est illégal, c'est contre le, c'est pas conforme à la loi. Vous voyez le débat que cela avait fait pendant même la campagne électorale, notamment à Zender, cette question donc de serment coranique. Mmh. Je pense que le préfet, en tout cas, et tout le monde on doit se ressaisir pour que dans une posture vraiment dialogique, qu'on se retourne, qu'on accepte vraiment de s'entendre pour le faire, parce que en tous les cas, ce qui se passe au niveau local, les élections, même pendant les élections, localement, les gens n'ont pas obtempéré au mot d'ordre des partis politiques. Une personne peut dire que non, vraiment, c'est mon parti, mais pour le local, je vais voter pour X ou bien pour Y. Donc, franchement, je pense qu'il faut transcender cette difficulté pour accepter vraiment de mettre en place le conseil, quel que soit vraiment celui qui va le gagner. Ça peut grandir tout le monde Parce que autrement dit, c'est la région qui va être lésée, c'est la commune qui va être lésée.
Arima Bakiari, selon les, en tout cas certaines dispositions du code de collectif, du code général des collectivités territoriales, si ce genre de situation intervient où on n'arrive pas à installer les conseillers élus, c'est que de facto, ils vont être remplacés par une délégation spéciale.
Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est ce qui s'est dit dans tous les cas. C'est le débat en cours à Niamey et à l'intérieur du pays. Et justement, l'État va profiter de cette incapacité à mettre les élus là où ils sont pour désigner en fait, une délégation spéciale. Alors que, bon, déjà, on sort de combien ? D'une bonne dizaine d'années de délégation spéciale. Je crois que ça serait de trop pour la commune de Gouré. Surtout qu'il s'agit d'une seule commune.
Effectivement, parce qu'il y a 6 communes, les 5 ont été installées. Il reste, c'est voilà. Juste la dernière, voilà. La commune urbaine de Gouré.
De Gouré. Donc vraiment, moi je crois que ce qu'il y a, les gens peuvent encore s'entendre. Et je pense que le
délai est arrivé à terme. Il y a un message radio du ministère de l'Intérieur qui donnait dernier délai de rigueur le 25 mai.
Bon.
Ou même vous pensez que...
Parce que, en fait, c'est quoi ? On ne peut pas réorganiser des élections. Ouais. C'est le Niger qui perdrait en ce moment. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, surtout quand c'est pour juste une seule localité. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, ce qu'il faut faire, je crois que peut-être qu'il faut faire diligence. Je ne vois pas en quoi une entente, n'est-ce pas, un dialogue entre le préfet, les autres élus et le ministère de tutelle, vraiment pourrait gâter quelque chose. Et je crois que c'est toujours mieux de travailler avec des personnes élues que des personnes qu'on va imposer à quelqu'un. Donc, c'est vraiment autant faire de trouver. Il y a toujours des solutions, à mon avis. C'est d'un État qu'il s'agit. Déjà, au niveau des élections générales, on arrive à faire à s'adapter parce que tout le monde peut s'entendre autour d'un fait. Et donc, je crois que c'est cela qu'il faut faire. Et comme ça, ça nous éviterait vraiment de faire tache d'huile, vraiment de marquer vraiment par un point négatif la mise en place des structures locales. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et dernier mot, ouais. Je pense que le préfet ne doit pas s'inquiéter par rapport à l'invitation de la religion dans ces affaires-là. C'est vraiment parce qu'ils se reconnaissent tous musulmans qu'ils le font et on ne peut pas pousser qui que ce soit à se départir. C'est impossible. Il y a des localités où c'est impossible. Et donc, il faut tenir compte aussi de ces réalités-là.
Sidiq Ousmane, est-ce que vous partagez ces points de vue de Arémi Abba?
Vous savez, moi je pense que certes vous avez énuméré les dispositions du code de collectivité générale. Moi je pense, honnêtement parlant, que aussi bien le préfet que de l'autre côté les autres partis, ils doivent vraiment transcender et faire fi de leur ego surdimensionné. Vraiment, la localité ne mérite pas une telle posture que chacun campe sur sa position.
À moins que
pour beaucoup, c'est le dessein que nourrit cette autorité. Pour le retour de Abaladi, Arémi l'a dit, les délégués spéciaux, ce qui vraiment n'est pas une bonne chose que sa commune s'illustre de la sorte. Moi, je pense que certes, le délai, on est au terme du délai, a été épuisé, mais je pense que les deux camps doivent revoir leur copie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, je pense. Ainsi, ils rendraient beaucoup plus service à la communauté et à leur commune en transcendant, je le dis et je le maintiens, leur ego surdimensionné. La localité n'a nullement pas besoin de vraiment cette guéguerre entre l'autorité et cette querelle de partis politiques.
Alors, surtout qu'on sait qu'en dehors de Gouré, plusieurs autres municipalités avaient eu des difficultés similaires, mais surmontées par la
suite. Elles ont su les gérer.
Il s'agit entre autres de Kirozérine, de Ingal, de la région d'Agadez, de Badegichiri, de la région de Tawa, pour ne citer que cela.
Ils ont tout intérêt à vraiment revenir au dialogue pour que cette impasse ou bien ce tiraillement reste et demeure un lointain souvenir pour les deux côtés.
Comment est-ce qu'on peut éviter de tels désagréments
Bon, moi, je pense que c'est là où les gens épingleraient les autorités à ne pas trop s'y mixer, notamment les responsables administratifs. Moi, je pense que le préfet, je ne vois pas pourquoi il va camper à ce qu'il y ait cette disposition religieuse-là. Arimi l'a si bien dit, vraiment, nous sommes dans un pays musulman, certes, la République, elle est laïque, mais vraiment, il ne doit pas s'apesantir sur ce détail de la religion-là. Donc, moi, je pense qu'il a tout intérêt à laisser que les élections se passent et que les nouvelles autorités communales soient installées. Vraiment, la localité n'a pas besoin de ce tiraillement et lui-même, quelque part, ça le dessert.
Et là, Souleymane Mahmoud, un mot à ce sujet.
Je pense que, de façon générale, il y a non seulement les complicités locales entre les conseillers, mais on a vu tout au cours de ce processus, en tout cas, aussi le jeu politique entre partis politiques alliés. Même entre alliés, ça n'a pas marché souvent. Il y a eu quelques trahisons.
Ah ouais.
Donc, bon, ça s'est passé. C'est des expériences. Je pense qu'on apprend, en tout cas, avec les erreurs. Mais ça, toujours comme ça, en tout cas, les élections locales, c'est assez différent des élections, peut-être, des députés. Absolument. C'est un peu différent. Parce que là-bas, souvent, c'est des familles. Les gens sont là. Vous voyez quoi? C'est vraiment un peu ça, la difficulté. Il va falloir. Moi, je suis d'accord qu'effectivement, vaut mieux vraiment ne pas amener ce mauvais souvenir de la délégation spéciale. Mais comme on dit, l'impossible ne l'est tenu. Donc, je pense
que vous pensez, comme Arimi Abba, qu'un dialogue pourrait permettre peut-être de faire un rattrapage
bon, très et malheureusement, finalement de permettre de les parce que vous dites que le délai imparti par le ministère est épuisé. Maintenant, est-ce qu'il est possible justement de donner un dernier délai en tout cas? Mais je pense que l'idéal serait vraiment qu'on accepte en tout cas d'installer au sein le conseil.
Plutôt qu'une délégation.
Franchement, je pense que c'est mieux.
Alors, nous abordons le deuxième sujet. Je le disais en début d'émission, les populations déplacées de la commune d'Anzourou ont été acheminées sur instruction des autorités vers leur village d'origine respectif. Ils ont été acheminés vendredi 21 mai 2021, passé via des camions suivis d'escortes militaires. Avant de partir, ils ont reçu l'assurance des autorités qu'ils seront sécurisés. Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques-uns d'entre eux qui sont retournés chez eux.
Présentement, tout va bien. Je peux dire même très bien. Alhamdoulilah, on est bien installé. Il n'y a plus de psychose. Qu'Allah nous accompagne. Vous savez bien, nous, notre souci, c'est vraiment l'agriculture. Faire nos travaux champêtres dans la paix et la quiétude. Avoir une bonne saison de pluie. C'est vraiment ça notre souhait.
Que Dieu accompagne le gouvernement et qu'il nous accorde la paix. En tout cas, Dieu merci, je dirais. Les soldats font tout ce qu'il faut. Ils sont presque partout autour de nous. Actuellement, où je vous parle, ils sont au château d'eau. Ils y restent jour et nuit. Et de notre côté, tout le monde est dans ses occupations. Tu pars chercher ton bois, tu reviens faire ta cuisine et manges tranquille avec ta famille. Tout va bien.
Voilà, donc c'était le témoignage de quelques ressortissants de la commune rurale d'Anzourou qui sont retournés chez eux. Arimi Abba, quel commentaire vous inspire cette réactivité des autorités à ramener les déplacés chez eux et à les sécuriser?
Mais écoutez, c'est ce qui est voulu vraiment pour tous les déplacés. Parce que quand la population quitte son terroir, c'est vraiment une aubaine pour ceux qui agissent, pour ceux qui attaquent. Ça veut dire que c'est une portion de territoire gagnée et de l'autre côté, tu auras une population qui, quelle que soit l'aide, quel que soit l'appui qu'on peut lui apporter, sera désarçonnée, vraiment désorientée. Et donc moi, je pense qu'il faut féliciter les autorités d'avoir une telle réactivité, une telle promptitude. C'est une très bonne chose. Tout de suite, la dame et le monsieur qu'on a écouté disaient que les militaires sont là partout. On espère que ça va durer. Malheureusement, est-ce que chaque village de l'Anzourou sera protégé tout le temps? Est-ce que les dispositions seront prises pour que les possibilités d'attaque soient vraiment, qu'il ne soit plus possible d'attaquer ces localités-là? C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que chaque fois qu'il y a déplacé, on a les moyens de réagir de la même manière? Parce que le mieux pour moi, c'est que le déplacement n'arrive pas. Parce que vous avez vu...
La prévention.
Voilà, il faut prévenir. Vous avez vu avec le déplacement des populations des îles du lac, jusqu'à aujourd'hui,
les gens
sont là, oui, autour du goudron de la nationale numéro 1, entre Diffa et Ningimi, et souvent entre Mayené et Diffa. C'est un vrai calvaire, une vraie catastrophe que ces populations-là vivent, parce que c'est des personnes... Là, tout de suite, le monsieur parlait de l'agriculture qu'ils ont envie de pratiquer. Et il n'a pas parlé des animaux. Parce que c'est des personnes, contrairement à ce qu'on pense généralement, autonomes, qui se déplacent.
La Alors que quand on se déplace pour un autre endroit, ça veut dire qu'on devient déboussolé.
Et... du jour au lendemain. Et donc, il y a beaucoup de cas de maladies mentales, beaucoup de personnes qui... deviennent d'un coup violents, beaucoup de personnes qui deviennent des gangsters d'un coup parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la position, la situation, à s'adapter à la position, à la situation qu'on leur a imposée. Donc le déplacement, c'est une des choses les plus graves vraiment de l'insécurité. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut prévenir, il ne faut pas que les populations se déplacent, créer les conditions pour que les populations restent dans leur terroir. C'est extrêmement important, c'est-à-dire c'est y compris un choc social concret, des structures sociales qui sont là depuis des décennies, depuis des centenaires, peuvent être, je ne sais pas, dérangées, peuvent être vraiment remises en cause du jour au lendemain. Et qu'est-ce que la société sera? Parce que tu auras des milliers de personnes qui n'ont plus de repères. Donc c'est en cela que le déplacement, c'est une très grave chose.
Alors, Elhadj Mohamed Souleymane, quelle est votre appréciation par rapport à, en tout cas, cette réactivité qu'on a vue pour ramener ces populations et mettre à leur disposition en tout cas des forces de défense et de sécurité pour leur garantir la sécurité? Quelle appréciation?
Ben, je pense que l'affaire du village de Lanzourou, en tout cas, a interpeller davantage toute l'opinion nationale. On a vu tour à tour les autorités, l'opposition, la société civile. Ça a fait toucher du doigt la gravité de la situation. Parce qu'en réalité, pour ce qui concerne les autorités, c'est un véritable camouflet. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de spéculation. Les populations sont en train de quitter les villages et ils viennent aller... voyez dans à la tribune ensuite au niveau de voyez
est-ce que c'est cela qui expliquerait cette réaction
ou... non en fait en vérité c'est très sérieux,
c'est une illustration de la gravité de la situation,
c'est très sérieux. Donc vraiment ce n'est plus de l'amusement, je veux dire que ce n'est plus vraiment au regard de la grandeur de notre territoire. Il suffit simplement qu'il y ait d'autres situations ailleurs pour que peut-être on va faire appel au FDS
aux mêmes personnes
qui sont là-bas. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens et les hommes suffisants pour les placer de façon permanente à une portion du pays. Mais je pense que ça interpelle tout le monde que la situation sécuritaire de notre pays, en tout cas, est en train de se dégrader. Et franchement, il va falloir qu'on essaie à tous les niveaux vraiment de chercher vraiment des solutions durables. Et c'est encore plus inquiétant quand on voit ce, au niveau du voisin, on voit certainement en parler. La solution n'est pas pour demain. Donc cela veut dire que de l'autre côté, puisque les touristes du côté de, en tout cas de Nord Tilaberi, on pense qu'ils viennent du Mali. Donc, si de l'autre côté, effectivement, la situation ne s'améliore
pas maîtrisée,
donc, là, vous voyez, franchement, le Niger doit s'inquiéter plus que tout le monde.
Alors, on sait que, en tout cas, au Niger, il y a plusieurs régions qui sont touchées par cette question de l'insécurité. Arimi en parlait, et notamment s'est déplacé. Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que cette stratégie peut être viable,
oui, celle de justement, le Niger est capable de déplacer les populations. C'est l'objectif le plus recherché. Parce que, vous voyez, maintenant, s'ils prennent la position vers Tilié, vous voyez, d'aucuns sont en train de penser que peut-être que les terroristes, si on y prend garde, sont en train de se faire un chemin où ils peuvent traverser le Niger jusqu'en Algérie avec des terres qu'ils maîtrisent, qu'ils contrôlent.
Alors, Sidi Ousmane, comment vous analysez toute cette situation et votre appréciation de l'implication des autorités pour permettre à ces personnes qui sont arrivées par centaines à Tillabéri de retourner chez eux.
Merci Alassane. On ne peut que se réjouir pour ces déplacés d'Anzourou de revenir sur leur terre. Et je rebondirai sur le propos de
Souleyman.
Ça a démontré l'implication de tout le monde, à savoir l'opposition, la société civile, les autorités. Vraiment, cette compassion, cette promptitude à être au chevet de ces femmes, enfants et vieillards.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Non, ça démontre l'extrême gravité de ce qui se passe actuellement dans le nord à Tillabéri. Maintenant, je pense que l'heure n'est plus aux paroles, aux blabla. Vraiment, il faut agir. Il faut poser des actes qui puissent vraiment répondre aux attentes de ces populations-là. C'est vrai, ils sont accompagnés par des militaires. Mais pour combien de temps ? Je ne joue pas les oiseaux de mauvaise augure. Il ne faudrait pas que ces militaires-là soient encore des chairs à canon pour ces terroristes. Est-ce qu'ils en ont véritablement les moyens pour non seulement préserver l'intégrité territoriale, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et pendant combien de temps ? Maintenant, il faut que les autorités se mettent à l'esprit. Il faut prendre des dispositions. Anzourou doit servir de leçon. Il faut que, avant que d'autres Anzourou ne surviennent, il faut prendre les dispositions pour qu'on assiste à Rimi, tout comme Souleyman Long. Vraiment, ces déplacés-là, de celles c'est ce qu'ils ont enduré. C'est des gens qui n'ont d'autres activités que l'agriculture, l'élevage. Donc, quand vous vous déplacez, vous voyez ce que ça peut créer comme choc émotionnel et vraiment du désarroi. Moi, je pense que c'est vrai, ils sont retournés chez eux. C'est vrai, pendant un temps, ils vont être sécurisés par les forces de défense et de sécurité. Mais moi, espérons vivement que ces FDS aient les moyens vraiment pour assurer la sécurité. Parce que, et souvenance, après plus d'un an d'interdiction de circulation de motos, moi, je suis atterré que c'est à travers des motos que des attaques se font et que des poursuites, on n'arrive pas à mettre la main sur ces gens-là. Et même, comble je ne sais pas comment qualifier ça. Qu'ils aient même le temps de prendre les blessés et même ceux qui perdent la vie sur des motos. Moi, je pense honnêtement que les moyens soient mis à la disposition des FDS là pour que nous ne revivions pas les situations qu'on a eu à vivre, que ces FDS là soient encore des chairs à canon pour ces individus sans foi ni loi.
Bien, c'est du coup, parlons maintenant de la sous-région et notamment les violences qui ont secoué donc la Côte d'Ivoire avec des ressortissants nigériens qui ont été pris pour cible donc sur la base d'une vidéo supposée être tournée au Niger, je le disais, et dans laquelle des hommes maltraités sont présentés par une internaute ivoirienne comme des ressortissants ivoiriens. Un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères et de la coopération en date du 20 mai dresse le bilan suivant: 39 blessés, d'importants dégâts matériels à registrer et 24 personnes interpellées par les forces de sécurité ivoiriennes. La principale instigatrice de cette violence, la nommée Nawa Fofana, a été interpellée, jugée en comparution immédiate et elle écope d'une condamnation de 5 ans de prison et 2 millions d'amendes. Pour le moment, le calme semble revenir en Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous, Sidi Ousmane, de ces violences en Côte d'Ivoire contre des ressortissants nigériens?
Je trouve que c'est extrêmement dommage et pitoyable qu'une telle activiste puisse vraiment, sur la base de fake news, divulguer ce qu'elle a eu à divulguer. Donc, on ne peut que souhaiter prompt rétablissement à nos compatriotes. Et vraiment.
Effectivement, même si ce communiqué ne fait pas cas, parce que la situation évolue, justement, il y a eu aussi au moins un mort.
Justement, donc, paix à l'âme du disparu. Mais vu la manière avec laquelle les autorités se sont prises, j'ai cru voir une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur nigérien qui a eu à rencontrer aussi bien les victimes, les autorités là-bas. Indépendamment de ça, que ce soit ici au Niger et même là-bas en Côte d'Ivoire, on a vu vraiment cette vague de compassion. Donc, ça ne peut que nous réjouir. Mais faudrait-il qu'à l'avenir, des dispositions soient prises pour éviter que nos compatriotes continuent à payer les frais de leur séjour en terre ivoirienne. Maintenant, indépendamment de dispositions prises, indépendamment de la sanction qu'aurait occupée la principale instigatrice, je pense que le cadre ou bien les dispositions vont être prises pour que au moins ces victimes-là puissent être dédommagées. Moi, je laisse ça vraiment à l'actif de la coopération ou bien de notre ambassade. Je ne peux que que prier pour que de tels incidents ne se reproduisent pas, parce que on ne va pas attiser le feu. Mais j'ai cru comprendre que nos compatriotes n'ont pas, c'est pas le premier incident dont ils font l'objet. On a des échos comme quoi il arrive que ils en paient vraiment les frais de certains individus mal intentionnés. Donc que des dispositions soient prises pour que nos compatriotes cessent de payer le prix et qu'ils continuent à se sentir comme chez eux là-bas, tout comme les leurs se sentent chez eux ici au Niger.
Arimaba, justement, est-ce que c'est uniquement cette vidéo qui a provoqué toute cette situation, où il y avait déjà en amont quelques petites crises, quelques petites mésententes qui ont pu être manipulées peut-être?
Bon, peut-être dire que les Nigériens étaient attendus au tournant, c'est certainement trop dire, mais peut-être que il y a la phobie un peu de l'étranger, n'est-ce pas? On sait, hein, il y a des pays qui ont brillé en la matière dans la sous-région et en Afrique en général. La Côte d'Ivoire, c'est un exemple. Mais il y a dans le Gabon où des ressortissants de l'Afrique du Sud, de l'Ouest étaient souvent expulsés. Il y a la Libye. Voilà. Donc c'est certainement un peu une volonté de revenir à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les Ivoiriens, depuis 10-15 ans, étaient plutôt préoccupés à se départir, vraiment à s'entendre entre eux-mêmes. Et puis la dernière crise avec le troisième mandat de Addo est passée sans que l'affrontement que beaucoup ont organisé n'ait lieu véritablement. Et donc tout ça voudrait dire certainement qu'il y avait une volonté vraiment de se décharger sur une certaine communauté. C'est tombé sur la nôtre. Ce qu'il faut saluer, et ce qui peut vraiment aussi expliquer ce que je viens de dire, c'est que, par exemple, au Niger, n'est-ce pas, on est resté très serein, très calme, n'est-ce pas, vraiment comme nous devons l'être et comme nous l'avons toujours été. Et ça a contribué énormément à
calmer la situation de l'autre côté.
Voilà, à désactiver vraiment cette grenade-là qui aurait pu coûter certainement la vie à beaucoup de nos compatriotes et peut-être aussi aux ressortissants, aux pays, à ceux qui l'ont accueilli, à la population autochtone, à la population locale.
Qu'en pensez-vous de la condamnation de celle qui était à la base proportionnelle?
Écoutez, vous trouvez? Cette histoire de réseaux sociaux, on s'en réjouit de l'avoir. Nous ne l'avions pas il y a 15-20 ans.
Et on vivait bien.
Mais l'évolution... Il faut toujours être positif et prendre ça du bon côté. Mais seulement, c'est dire vraiment à nos internautes ici qui peuvent nous voir et nous entendre que c'est délicat. C'est un outil dont il faut vraiment utiliser avec beaucoup de délicatesse. C'est vraiment de savoir marcher carrément sur des œufs. Parce que si la moindre erreur, vous avez vu, peut mettre en conflit deux peuples frères qui vivent tranquillement, et ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà parce que, surtout quand les gens voient les choses en groupe, en communauté, ils n'ont pas le temps d'avoir la lucidité de comprendre. Et puis, il y a des niveaux de compréhension
aussi,
quand vous allez expliquer, quand vous allez dire... Les gens réagissent avant de savoir, bien sûr. Voilà. Donc, vous qui avez la possibilité de lire, de comprendre... Comme on le dit en journalisme, vraiment, vérifier d'abord l'information à plusieurs sources avant de
le balancer.
Et puis, en matière de gestion de conflits, de couverture de conflits, on a dit qu'il faut œuvrer pour qu'il n'y ait pas le conflit. Il faut œuvrer pour que le conflit s'estompe. Donc, si je vois de mes compatriotes qui ont été agressés, peut-être par des gens qui n'ont rien compris à la vie, qui ont des choses à se répresser eux-mêmes, n'est-ce pas? Vaut mieux...
Qui ne sont pas acceptés, voilà, même
vaut
peut-être
mieux alerter pour que ces personnes-là soient sanctionnées que de divulguer ça à la face du monde, et de l'autre côté, des gens vont réagir. Et c'est l'affrontement. C'est des questions très sensibles. Le patriotisme, le pays, le frère, la sœur, le sang, c'est extrêmement important.
Les conséquences des gestes, des certains gestes qu'on peut prendre
Vraiment, les internautes doivent pouvoir comprendre et qu'est-ce qu'il faut diffuser. Il faut vraiment se tourner, réfléchir mille fois avant de faire.
Elhadj Mohamed Souleymane, les Nigériens ont été sereins par rapport à la gestion de cette situation, l'avait dit Harry Maba. Vous partagez ces points de vue. Est-ce que, justement, c'est ce qui a contribué à éteindre le feu? Parce que de ce côté, il n'y a pas eu de réaction.
Absolument, il faut saluer vraiment le sens de responsabilité des Nigériens et aussi des autorités ivoiriennes, parce qu'on se rend compte à l'évidence qu'au même au niveau de la Côte d'Ivoire, vraiment les autorités, que ce soit des opposants, les hommes de culture, vraiment les forces vives, en tout cas, les hommes ont dénoncé publiquement, et le traitement fait par les autorités ivoiriennes, en tout cas, et à la hauteur, vraiment, ça montre que vraiment ils sont vraiment soucieux de la protéger la sécurité des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, personnellement, lorsque cette situation s'est passée, j'avais contacté un confrère ivoirien, un ami. Je lui ai dit, c'est comme ça, vous remerciez vos frères qui vous servent du garba, et du souya, quoi, parce que c'est pas aussi de la bonne vienne là-bas. Il m'a dit, non, vraiment, il a essayé de m'expliquer. Lui, il dit que les responsables de cette situation, il y a un phénomène là-bas qu'on appelle les microbes. Donc, c'est dans le cadre de crise politique.
C'est des jeunes badauds avec des armes blanches.
Aujourd'hui, absolument. Et je vous assure que mes concitoyens, j'ai des parents, en tout cas, avec qui j'ai causé, ils ont vraiment conforté cette thèse. Qu'effectivement, c'est des gens qui sont, en tout cas, des jeunes gens vraiment qui sont là, qui sont devenus vraiment des tueurs en série.
Quoi, à qui on va juste qu'il y ait fait, ils vont faire sans occasions. Réfléchir. Sans...
Donc, en réalité, la fake news n'a été que tout simplement l'élément déclencheur. N'attendent qu'en fait, c'est aubaine, en tout cas, pour agir. Donc, cela veut dire que tout simplement, pour prévenir, il va falloir effectivement tenir compte de cette réalité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a ces microbes, justement, qu'il faut savoir. Donc,
et qui n'épargnent pas même les
Ivoiriens. Oui, parce que quand vous voyez en Côte d'Ivoire, les Nigériens, contrairement par exemple au Burkinabé, au Mali, hein, surtout les Burkinabés, ils travaillent dans leur champ. Et ça, effectivement, c'est un peu les acculés. Mais les Nigériens font des petits commerces, ils font vraiment des activités qui ne sont pas de nature vraiment à les frustrer. Mais ils sont en fait des activités utiles. Souvent, ils font vraiment le cirage, en tout cas, vraiment. De sorte qu'en réalité, les Nigériens ne sont pas vraiment très mal vus. On était surpris de voir ça. Mais donc, franchement, je pense qu'on doit tout simplement dire que même les autorités, en tout cas nigériennes, ils ont quand même cette fois-ci fait diligence. On a envoyé une délégation et on a vu comment vraiment le ministre de l'Intérieur ivoirien, vraiment comment il s'est excusé de moi.
Franchement, je pense on a vu également qu'il y a certaines personnalités ivoiriennes qui ont pris la parole à travers les réseaux sociaux pour s'excuser, pour exprimer tout leur mécontentement.
Par exemple, Bilé Goudé,
Tichan Diafa Koli, Tichan Diafa Koli et Adama Daïko et autres.
Donc moi, je pense que franchement, c'est un incident qui n'a rien à voir avec une certaine haine des Ivoiriens contre les Nigériens, mais il y a tout simplement une irresponsable qui a, elle-même, elle a dit qu'elle a fait...
Peut-être
donc,
sans mesurer...
Dans tous les cas, la leçon maintenant, en tout cas les réseaux sociaux, c'est qu'il faudrait que les gens soient plus responsables. Il faut tout simplement qu'il y ait un peu... Il y a des gens qui font des bonnes pratiques quoi, sur les réseaux sociaux. Il y a des bonnes choses qu'on apprend, qu'on insère sur les réseaux sociaux. Donc il faudrait vraiment que ces bonnes pratiques en tout cas puissent être prévalentes en tout cas sur les réseaux sociaux.
Bien, et là justement nous allons terminer avec la situation au Mali. Je le disais, la transition connaît en tout cas désormais une nouvelle orientation depuis mardi, où le vice-président de la transition, Assimi Goïta, a décidé d'écarter le président et le premier ministre malien de la transition. Cela fait suite à la publication de membres du nouveau gouvernement dans un message télévisé. Donc, lui, par son conseiller spécial, le vice-président, reproche au président Bah Ndaw, le président de la transition, et le premier ministre Mokhtar Ouane, d'avoir trahi la charte de la transition. Voilà, et d'ores et déjà, on a vu les condamnations fusent de partout, notamment celles de la France, de la CEDEAO et même le Conseil de sécurité. Alors, êtes-vous surpris de ce qui vient de se passer au Mali?
Je ne suis pas surprise pour la simple bonne raison que dès le départ, hein, on se rend compte que la communauté a fait pression pour négocier le minimum, mais ils ont besoin de gérer le pouvoir.
Le minimum, c'était celui que les militaires puissent remettre le pouvoir aux civils.
Si Assimi Gota reproche au président Baye Ndiaye et le premier ministre Mokhtar Wane de violer la chaîne de transmission, il l'a fait. Parce qu'il n'a pas le droit de les destituer. Donc, dans ces conditions, il y a, je pense, le vrai débat. Dans leur communication, on sent qu'effectivement, il y a un problème de tout simplement d'obédience. Je veux dire que eux, une partie donc du gouvernement, notamment la junte, veut travailler avec une puissance, parce qu'on en parle, en tout cas, ils l'ont dit clairement dans la communication, que par exemple, ils reprochent au premier ministre, au président de la transition de travailler avec la France. Donc là, vous voyez, c'est un problème assez délicat, un problème de fond, parce que tout simplement, ils ont enlevé deux ministres, celui de la sécurité et celui de la défense. Ça n'a pas plu et tout le monde sait effectivement que ces gens-là... Moi, je pense que, pour faire court, ils ont fait un second coup d'État. Et la vérité, c'est que même demain, si on va désigner d'autres autorités, je pense qu'il faut laisser Goïta être président, sinon... Même si on va nommer, il va le destituer parce que simplement, absolument. Vous voyez, c'est comme en fait quand
mais il faut. Est-ce qu'avec toute cette pression de la communauté,
c'est qui est maladroit. Ils ont procédé de la même façon qu'ils ont fait avec Ibeka. Ils ont pris ces gars-là. On est venu de la même façon négocier pour même les libérer. Et vous savez,
avec une démission.
Le président qui vient de destituer, c'est quand même un ancien aussi militaire. Donc, ce qu'il faut craindre aussi, c'est qu'entre eux, que ça ne se gâte pas. Mais dans tous les cas, aussi, l'option de faire deal avec maintenant le M5, dès le départ, vous savez très bien que dans l'élaboration de la chaîne de la transition, il y a une incompréhension. Le M5 avait boudé justement cette tendance à vouloir en fait embrigader, à vouloir imposer leur vue. Et c'est que cela venait tout simplement arrêter les militaires au Mali. Je ne disconviens pas. La question essentielle, parce que j'ai vu quand même, il faut le reconnaître, il y a des malins qui soutiennent, qui pensent qu'il faut aller vers les Russes. Ils pensent qu'avec les Russes, c'est l'occasion peut-être de venir à bout de la question sécuritaire. Donc, dans tous les cas, mais je pense que ce qui est grave, c'est que le Mali n'a pas le temps de... qu'il y ait une guerre entre les colonnes, en tout cas.
Qu'il y ait des querelles incessantes.
Parce que tout simplement, la situation sécuritaire n'attend pas.
Arimiaba, alors, est-ce que vous avez une idée des raisons qui ont pu peut-être conduire à cette situation qui est là?
En fait, c'est entre l'exécutif, en fait, je dirais le premier ministre et le président de transition, Baye Ndiaye, et le reste, membre de la junte qui a fait son coup d'État. Selon certaines sources, c'est que Baye Ndiaye devait discuter de cette question du gouvernement-là avec...
Avec le
vice-président, il semble qu'il ne doit pas prendre de décisions importantes sans pour autant l'en informer. Et il est sorti pour aller à une rencontre internationale sans lui dire. Et quand il est revenu, il a fait dégager ses deux camarades. Vous savez, les militaires, même s'ils se font la guerre entre eux quand tu l'aperçois, mais pour se soutenir, ils sont prêts à mourir pour leurs camarades. Ils les ont dégagés, les deux colonels, donc ça doit être le ministre de la Défense et celui de la Sécurité, quelque chose comme ça. Et quelques minutes après, ils ont pris le président et le premier ministre pour les amener à Kati. Et bon, ils les ont fait démissionner, parce qu'ils ont démissionné
comme
pour Ibeka. Ça, c'est une stratégie purement malienne.
Alors, est-ce que vous pensez que, vu la pression de la communauté internationale, il va, par exemple, le premier vice-président, Assimi Goïta, va accepter qu'on prenne de nouveau un civil, cette fois-ci,
écoutez,
qui va diriger la transition, ou il va garder lui-même le pouvoir jusqu'à l'organisation des élections?
C'est une erreur que la communauté internationale a eu à commettre.
Laquelle?
Que ce soit un civil ou un militaire, n'est-ce pas? Dès lors qu'il y a un coup d'État, celui qui est là ne joue pas d'une légitimité extraordinaire. n'est-ce
pas? L'idéal, c'est d'organiser des élections et de partir.
C'est de privilégier des élections dans un court ou dans un délai bien donné.
Dans lesquels le président de la transition et les membres ne vont pas être candidats.
Et là, ils ont mis une pression telle sur les militaires, sur la junte, qu'ils les ont obligés à accepter un semi-civil à leur tête. C'est le général Bandao, n'est-ce pas?
À la retraite.
Voilà, à la retraite. Comment elle s'appelle, Hassimi Goïta, ce qu'il vient de montrer, c'est qu'il fait au moins l'unanimité au sein des militaires maliens. Et il faut respecter ça. Mais aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse de cette manière, mais dès lors qu'il y a eu l'affaire du Tchad, le gars, il meurt, c'est son fils qu'on met à sa place, n'est-ce pas? Alors que leur constitution est claire que c'est le président de l'Assemblée qui va occuper,
même
n'est-ce
si
pas? Même si, non, mais même s'il a
décliné,
ils sont dans un processus démocratique, on sait qui remplace le président de l'Assemblée quand le président de l'Assemblée n'est pas là.
N'est-ce Est-ce qu'on peut penser que Assimil a pu voir du deux poids deux mesures?
À mon avis, ils ont été fortement frustrés par cette situation. Parce que les mêmes qui ont soutenu à ce qu'on nomme un civil à la tête de leur État sont ceux-là qui ont aussi défendu que non, ce n'est pas un coup d'État, c'est pour poursuivre un processus. Le Tchad est assez spécifique et tout. Ok, donc il ne faut jamais faire ce deux poids, deux mesures. On ne peut pas tout prévoir dans la gestion du monde entier. Ce qu'on applique à un peuple, il faut l'appliquer à l'autre. Et aujourd'hui, voilà que cette question d'affrontement de l'Afrique est devenue encore une fois de plus le terrain d'affrontement de puissances, n'est-ce pas, étrangères. En la matière, nous avons la France d'un côté, n'est-ce pas, qui soutient fermement, on a vu le président français qui est monté tout de suite au créneau pour dire qu'il risque d'avoir des sanctions ciblées. Autrement dit, Goïta ou son adjoint ou les ministres qui ont été déchus là, eux risquent d'être remplacés, leurs comptes bouclés, empêchés de voyager, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas de nature à arranger les choses. Le monde, quoi qu'on dise, n'est-ce pas, ce n'est plus on n'est plus dans les années 60. Les peuples, ils peuvent mettre...
C'est du coup, ce moment, un mot sur cette situation.
Justement, ce qui se passe actuellement au Mali, ça m'a rappelé un confrère là-bas qui m'a dit, bon, heureusement que le pape n'est pas africain, sinon, du coup, le lendemain, il peut faire l'objet d'un coup d'État. C'est assez ironique, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement au Mali, Alassane, franchement, parce qu'il faudrait que les Maliens prennent leurs responsabilités. De toutes les façons, les arguments avancés par le vice-président, la personne du colonel Goïta, moi je pense que la solution est dans les mains des Maliens, que ce soit les Russes, que ce soit les Français, de toutes les façons chacune de ces deux puissances-là ne vise que leur intérêt. Maintenant, ce que je déplore, c'est cette hypocrisie de la communauté internationale et de la puissance colonisatrice. Il faudrait que cette puissance ait à l'esprit que vraiment, justement de la France, que c'est pas la France de 1840, hein. Donc vraiment il faudrait éviter cette ingérence-là, criarde et assez vexante. Assez vexante. Vous l'avez si bien dit, cette politique de deux poids, deux mesures. Du coup, moi, je pense que le président Macron a tout intérêt à éviter qu'il ait ce sentiment d'anti-français qui est en train de croître. Arimi l'a dit, c'est pratiquement... On risquerait de tendre vers le même scénario centrafricain. Moi, je dis honnêtement parlant, la solution est entre les mains des Maliens. Maintenant, Assimi, il doit prendre toutes ses responsabilités. Et il a dit, la transition va suivre son cours normal. Maintenant, à lui de fédérer les vues. Le Mali n'a pas besoin de ça.
Merci.
Alors, je l'ai dit, il y a les défis, surtout le défi sécuritaire. Et moi, je prie pour que ce pays, frère-là, puisse vraiment voir le bout du tunnel, boucler la transition et que l'on assiste vraiment à un passage de témoin à
Sidiku.
Des autorités démocratiques.
Merci Sidiku. Merci. Merci Sidiku. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes ce week-end sur les 46 radios partenaires du studio Kalangou. Samedi et dimanche à partir de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de l'émission Tous à la Fada. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème les violences faites aux femmes et aux enfants dans les camps de réfugiés à Difa. Et dimanche à 18h15, le forum en Zarma sur le thème l'appui des services techniques de l'État aux personnes déplacées d'Anzourou à Tillabéri. Nous étions en compagnie de nos confrères Elhadj Mahamadou Souleymane du journal Aligne Niger Inter, Arimia Bakiari, journaliste à la radio alternative, Sidiku Ousmane, journaliste indépendant. Je suis Alassane Fouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. La régie son a été assurée par Issa Lawali, la réalisation et le montage vidéo assuré par Mustapha Ivoire. Bonsoir.